fort d'avoir pu vous donner la définition de la pureté. C'est moi qui vous parle ce matin. Et je vais faire quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire, c'est que ce matin, je vais témoigner. Alors j'espère que ça va aussi vous exhorter, mais je vais principalement témoigner ce matin. Il y a deux personnes qui ont motivé ce que je veux dire ce matin, ce sont nos deux Jean-Pierre. Alors le premier, c'est Jean-Pierre Danels, qui après, il y a quelques années déjà, j'avais déjà fait plusieurs exhortations, et après une de celles que j'avais faites, de toute façon il vient toujours me voir, et puis cette fois-ci il vient me trouver après le culte pour me dire « Pour une fois, ton exhortation m'a intéressé. » Elle avait un aspect pratique. Ça m'a marqué et ça ne m'a pas, t'inquiète pas, ça, je ne l'ai pas mal pris, au contraire, et j'ai changé cet aspect de mes exhortations par la suite. Et un petit peu dans le même thème, il y a deux semaines, je faisais les chants et je partageais une anecdote sur les multiples et interminables entretiens que je passais, entretiens d'embauche. Et à la fin du culte, toujours avec la même décontraction débonnaire, Jean-Pierre me dit qu'il a aimé ce que j'ai dit car j'ai illustré avec un exemple concret de ma vie ce que je voulais dire. Alors Jean-Pierre, ce matin, tu vas être doublement content parce que ça va être concret. Je vais parler de ma vie puisque je vais ouvrir mon journal intime. Et le deuxième Jean-Pierre, c'est... Alors il est venu avec, c'est Jean-Pierre à la casquette qui m'a dit la semaine dernière sa joie que j'ai trouvé un nouveau poste. Car c'était pour lui un sujet de prière quasi quotidien. Alors ça m'a touché. Quand Pierre a fait l'annonce la semaine dernière, je suis resté discret et je vais plus vous en parler aujourd'hui, mais sachez que je suis très reconnaissant pour toutes vos prières, pour toutes les fois où vous avez personnellement pris de mes nouvelles. Nelly, toutes les semaines, Pierre Guillot, Rosa Danels. Alors, je ne donne pas les noms de tout le monde, mais en tout cas, je vous remercie profondément pour toutes vos prières. Et ce que m'a dit Jean-Pierre la semaine dernière à propos de ses prières quasi quotidiennes, ça m'a vraiment touché, particulièrement parce que même moi, je ne pense pas avoir de sujet quotidien me concernant. Sujet de prière quotidien me concernant. Et bien que je sache que je peux tout remettre entre les mains de Dieu, eh bien j'en arrive parfois à me réserver en me disant, mais si Dieu n'a toujours pas répondu, est-ce que ça l'intéresse vraiment? Non pas que je me sente abandonné de Dieu, mais peut-être que si je me trouve dans telle ou telle situation, eh bien c'est de ma faute. Alors maintenant, à moi de me débrouiller. Alors, je ne vais pas refaire toute ma vie depuis presque 10 ans, mais quand même, je vais témoigner. Alors, il y a maintenant presque 10 ans, j'arrive à Lille. Et la principale raison de ma venue à Lille, c'est Céline, ma copine depuis presque 6 ans maintenant. Et j'arrive dans des conditions qui sont si favorables, un nouvel emploi, mon ancienne société qui paye mon déménagement. J'emménage à 5 minutes en voiture de chez elle. J'emménage à 5 minutes en voiture de chez Karl. Donc toutes ces parties de Uno le vendredi soir. J'arrive dans une nouvelle église que j'affectionne. Une nouvelle culture d'église. Tout est beau, tout est nouveau pour moi. Aucune barrière ne s'est mise entre ce projet de venir à Lille et moi. Aucune barrière. Et puis j'arrive chez Materne, ma nouvelle société, avec un projet intéressant et un projet financier pour moi aussi plus intéressant. Et je suis super bien accueilli. Et ce n'est pas seulement la situation matérielle qui crée ça en moi, mais j'avais rarement eu autant de situations favorables en si peu de temps. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous aussi? Tout qui roule comme une sorte de mécanique, eh ben on y voit la main de Dieu. Et cela crée en moi une reconnaissance qui est infinie. On se sent béni et on dit merci à Dieu tous les jours. Et l'apothéose de ça, c'est un an plus tard. Je me marie avec la femme de ma vie. La seule. Et la plupart d'entre vous étaient là. Le cadre était magnifique, les chants, les témoignages. J'avais toujours rêvé d'un mariage comme ça, et il s'est fait de cette manière-là. Et j'ai même pu participer financièrement, alors que dans des conditions normales, ça aurait été impossible. Mais tout a bien roulé. Tout a bien roulé. Et alors là, c'est la reconnaissance ultime envers mon Seigneur. Et je lui dis, merci pour tout ce que j'ai. Merci pour tout ce que j'ai. Et puis le temps passe, les années passent. Et puis ce qu'on a, on l'a. Alors on n'en prend pas forcément soin. Ce travail que j'ai, ça fait longtemps maintenant que je l'ai. Et l'application que je mettais au début dans mon travail, elle n'y est plus. Seigneur, fais que cela change. Ce qui me plaisait avant ne me plaît plus autant aujourd'hui. Et ce que j'aimais avant me répugne maintenant. Ce chef qui autrefois était bienveillant, son remplaçant ne l'est plus autant. Et alors, on se retrouve à considérer ce qui était une bénédiction il y a quelques années comme un fardeau. Ça ne vous fait pas peur de vous poser cette question? Mais comment une bénédiction d'un jour peut devenir un sujet de tristesse, de frustration et de colère le lendemain? Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Une bénédiction qui devient un fardeau. En tout cas, en ce qui me concerne, cela a créé un sentiment de gêne, et voire même de honte devant Dieu. Mon Père, qui m'aime, peut-il se tromper? Et est-ce qu'il peut me donner ce dont je n'ai pas réellement besoin? Et alors, si maintenant je prie et que je demande quelque chose d'autre à Dieu, ne va-t-il pas me considérer comme un sale petit ingrat que je suis? Et lui de me répondre, je t'ai donné ce que tu m'as demandé, je t'ai même donné plus, rappelle-toi. Et maintenant tu te plains. Mais mon grand, tu ne sais pas ce que tu veux. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Et c'est... Comment?
Pas à pas.
Et c'est comme ça que, au fil du temps, j'en suis venu à me demander s'il était réellement, vraiment pertinent de demander à Dieu ce dont j'avais besoin. Je ne suis pas schizophrène. Et ce n'est qu'après avoir sollicité vos prières que je me suis posé ces questions. Je connais depuis tout petit ce verset, ce passage en Matthieu chapitre 7, au verset 7 à 11. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez de donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Je sais que Dieu est fidèle. Je le sais. Pendant toute cette période, ma mère n'a pas arrêté de me dire « Dieu fait les choses en son temps ». Et c'est une chanson que je connais depuis presque 30 ans, « En son temps ». Et pourtant, connaissant ces paroles, connaissant ces versets, connaissant ces chants, ces mots n'ont pas su faire écho dans ma vie pendant cette période. Ou alors, du moins, c'est le sentiment que j'ai eu. La semaine dernière, lors d'une discussion avec Pierre-André et Anne, on s'est posé la question de savoir si le manque de foi était un péché, si la peur de l'avenir était un péché. Alors, certains d'entre eux pensaient que ça en était un. Et personnellement, je n'en étais pas tout à fait sûr. Mais si je ne suis pas sûr que la peur de l'avenir est un péché, mais en tout cas, je pense que cela mène à s'éloigner de Dieu. Cela mène à chercher des moyens extérieurs à notre Dieu. Ça mène à se reposer sur ses propres moyens qui, au final, peut amener, oui, à se séparer de la volonté de Dieu pour nos vies et finalement au péché. Et cette situation, ma situation, me fait penser à celle d'Abraham. Abraham, en Genèse chapitre 12, à partir du premier verset. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il est sorti de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Moré. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel et dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. » Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi, et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit « c'est ma sœur » Aussi l'ai-je prise pour ma femme, maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Alors, Abraham, c'est cet homme dont on dit qu'il est le père de la foi. C'est cet homme qui était prêt à sacrifier son fils, son seul fils, ce fils de la promesse, parce que Dieu le lui avait demandé. Alors, au début de ce passage, dans un premier temps, on voit Dieu qui apparaît à Abraham. Il lui fait cette grâce. Ensuite, il reçoit cette promesse. Il reçoit cette promesse de faire de lui une grande nation et de lui donner un pays. Troisième point, Abraham part. Il part sans douter, sans rien demander, sans demander pourquoi. Abraham part. Quatrième point, Dieu désigne l'endroit même où il se trouve comme l'endroit de la promesse, l'endroit de la bénédiction. Et pourtant, à l'instant même où il se trouve sur l'endroit de la bénédiction, la famine arrive et à la première épreuve, il s'en va. Abraham s'en va. Abandonnant le terrain de la bénédiction, Abraham, qui est capable de partir sans rien demander à Dieu, en quittant ce terrain de bénédiction, Abraham a peur. Il a peur de l'avenir et c'est en ayant peur de l'avenir qu'il va être amené à tromper autour de lui, à demander à sa femme de dire qu'elle est sa sœur. Et de cette peur de l'avenir, de ce manque de foi, il pêche en mentant. Mais il ne met pas simplement lui en danger, puisqu'il met aussi en danger la pureté de sa femme. Il met en danger la pureté de sa femme. Le pharaon s'en rend compte. Et c'est un païen qui reprend le prophète pour son mensonge. C'est la huitième étape. Et la dernière étape, l'Éternel intervient et restaure Abraham. Donc voilà en 9 points les différentes étapes de cette histoire. Alors je pose cette question. Quand Abraham s'est mis à douter de l'avenir? Vous pouvez répondre. Quand est-ce que Abraham s'est mis à douter de l'avenir?
Quand c'était la famine.
Quand c'était la famine, oui. Plus, mieux que ça encore. À quel moment est-ce qu'il s'est mis à douter de l'avenir et qu'il a menti en fin de compte? Comment? En ayant peur des Égyptiens, mais qu'est-ce qu'il allait faire là-bas dans un premier temps? Qui l'avait envoyé en Égypte? Comment? C'est lui qui s'est envoyé en Égypte. Donc, il a eu peur en l'avenir en quittant le terrain de la bénédiction. Il a manqué de foi quand il a quitté le terrain de la bénédiction. Et il a eu peur de l'avenir quand il a arrêté de chercher la volonté de Dieu pour sa vie. Et en arrêtant de chercher la volonté de Dieu pour sa vie, il a finalement menti. Et c'est son manque de foi qui l'a conduit au péché. Alors, mais une question se pose pour moi. Pourquoi alors Dieu permet que, dès qu'il est sur le terrain de la bénédiction, une famine arrive? Pourquoi est-ce que Dieu permet ça? Et je vais poser même la question d'une manière plus concrète et plus pratique pour toi, Jean-Pierre. Pourquoi Dieu me met-il à l'épreuve? Pourquoi Dieu nous met-il à l'épreuve? Pourquoi Dieu permet à un jeune baptisé d'être tenté presque instantanément après son baptême? Pourquoi Dieu permet des occasions de chute ou des tentations alors que je viens juste de me marier? Pourquoi, alors que je joue si bien, je me blesse au genou? Ah non, cette question, ça ne vaut pas.
pourquoi Dieu me met-il à l'épreuve? Pourquoi Dieu nous met-il à l'épreuve? Pourquoi nous permet-il de douter? Deux réponses à ça, deux passages. Le premier, c'est en Jacques, et c'est le verset du jour, je crois. Jacques, chapitre 1, versets 2 et 3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et le deuxième passage, en Romains, chapitre 5. Romains, chapitre 5, au verset 3 et 4. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Lorsque j'ai réalisé que j'étais sorti de ce terrain des bénédictions, que je ne cherchais plus à faire la volonté de Dieu, que j'étais dans l'injustice dans mon travail, que je ne faisais plus correctement, je suis revenu à ce commandement, et Pierre en parlait ce matin, de tout faire sans murmure, de tout faire pour la gloire de Dieu. Et de le faire pour le Seigneur, même si ce travail me paraissait pesant. Et c'est comme ça que ma perspective a commencé à changer. En doutant de la pertinence de demander son aide à mon Seigneur, j'ai manqué de foi. Comme Abraham a manqué de foi. Et ça, je pense que c'est parce que, comme le décrit l'auteur Philips, mon Dieu est trop petit. Mon Dieu est trop petit. Perdant de vue qui était réellement mon Dieu, j'ai cru que je pouvais lui soustraire mes problèmes. Mais j'oublie parfois à quel point mon Seigneur est grand. N'est-ce pas lui qui s'est fait homme et s'est humilié en mourant sur la croix pour moi? N'est-ce pas lui qui a vaincu la mort? N'est-ce pas lui qui m'a appelé son enfant? N'est-ce pas lui qui m'a pardonné malgré moi? N'est-ce pas lui qui m'a sauvé en dépit de qui j'étais? N'est-ce pas lui qui a suscité la bénédiction à tous les peuples de la terre, à partir du plus petit d'entre eux, le peuple d'Israël? C'est lui qui, malgré la colère que pourraient faire naître mes doutes, même malgré moi, et m'appelle à le suivre, à lui obéir et à lui appartenir, moi. C'est ce Dieu-là qui m'appelle. Si ce Dieu que je perçois est trop petit, c'est que je ne le vois pas, lui, dans l'immensité qui est la sienne. Je n'ai pas les bonnes lunettes. Je ne le connais pas assez bien. Et ça ne fait aucun doute qu'à cette période-là de ma vie, ma Bible restait trop souvent fermée. Et pourtant, seule la parole et l'esprit peuvent m'enseigner qui il est vraiment. Qui il est vraiment. J'avance un peu en disant qu'en connaissant Dieu, en apprenant à le connaître, on s'affranchit de ces questions. Mais pourquoi Dieu permet? C'est l'affaire d'une autre anecdote, et je ne vais pas ouvrir tout. Je ne vais pas vous raconter toute ma vie ce matin. Mais cette anecdote de ce mot « pourquoi » m'a valu une belle fessée quand j'étais enfant. Et j'avais toujours ce mot « pourquoi » pour ma mère. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Mais ma mère n'avait pas à se justifier de ce qu'elle considérait comme juste pour moi. Oui, c'était un peu la schlag à la maison. Mais sans commune mesure, notre Dieu est souverain. Et c'est en tant que souverain régnant sur ma vie, sur nos vies, qu'il n'a pas à justifier ce qu'il fait dans nos vies. Et pourtant, n'ayant rien à justifier, il nous explique. Et il nous l'explique notamment à travers les deux versets que j'ai cités, Jacques et Romains. L'épreuve de notre foi qui produit la patience. Alors voilà, à ce Dieu qui me change, à ce Dieu qui m'a changé, qui m'a fait avancer, je ne lui dis pas merci pour ce que j'ai, mais je lui dis merci pour ce que tu es et merci pour ce que tu me donnes. Parce que comme Job, je sais qu'il donne et il reprend, mais en toute occasion, que la gloire lui soit rendue. Je finis donc avec ces mots de Paul pour Timothée, en 2 Timothée. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier. Je répète. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier. Mon Dieu est fidèle. Il me l'a appris. Et si je lui dis merci, ce n'est pas parce que j'ai trouvé un travail, mais c'est qu'il s'est servi de cette situation pour changer ma perception de qui il est réellement. La bénédiction dans ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas d'avoir trouvé un travail. C'est que Dieu m'a changé. Que la gloire lui soit rendue.